à voix nue. Toute cette semaine, Sylvie Tanette rencontre Jean Rouault. Ce soir, la mort du roman et le nom dit national.
Alors Jean Rouault, après avoir parlé de vos romans, de vos textes autobiographiques, peut-être pourrait-on aborder aujourd'hui un peu plus frontalement votre façon de penser la littérature à travers les essais que vous avez publiés. Alors la séparation entre essais, romans et autobiographie, c'est pas toujours très clair chez vous, mais dans des textes comme La désincarnation en 2001, L'invention de l'auteur en 2004, Pour une littérature monde en 2007 ou encore Misère du roman en 2015, on vous a vu analyser non seulement votre écriture et votre propre rapport au roman, mais aussi et surtout analyser, décrypter l'évolution de la forme romanesque en France. Et comme vous le racontez dans Une façon de chanter, d'une façon assez drôle d'ailleurs, cette évolution de la forme romanesque vous tombe dessus quand vous entrez à l'université, parce que ce jour-là, on vous annonce la mort du roman.
En fait, l'histoire, c'est que je vous expliquais que quand je rentre à l'université, je viens d'un collège religieux, et après avoir fait des études scientifiques, enfin scientifiques au niveau du bac, mais enfin, je me souviens qu'à l'année du bac, dernière année, on faisait que des maths et de la science,
et
de la physique.
Voilà.
Donc, pas du tout préparé, j'ai une vision très romantique de l'écriture. Je suis pas spécialement un raconteur d'histoire, donc d'emblée, c'est l'écriture lyrique qui m'intéresse, pas la nouvelle, par exemple, je n'ai jamais écrit de nouvelle. C'est le texte, allez, on va dire un peu empoulé, comme ça, qui s'enivre de lui-même. Et j'arrive en fac, où non seulement on m'explique que le roman est mort, mais que le style aussi est considéré comme un genre bourgeois réactionnaire. Donc du coup, tout ce qui me flattait, poétiquement parlant, à savoir cette emphase de la phrase, tout ça a été catalogué comme daté, comme ayant fait son temps, comme n'étant plus moderne. Vous savez, la phrase de Rimbaud, il faut être absolument moderne. C'est une époque où l'idée de la modernité est très forte. Tout le siècle s'est construit autour de ça, et avec l'idée de la table rase. C'est les années 70, c'est tout le siècle, le 20e siècle, c'est la table rase du passé, faisant table rase. L'art, évidemment, a supprimé la représentation, le tableau, tout, enfin bon, pour ne subsister que dans le discours, maintenant. Et sauf que la littérature, elle, a essayé de suivre cette espèce de cadence infernale imposée par l'art, par la création artistique, sauf qu'à un moment, lorsqu'on a retourné les phrases dans tous les sens, qu'on a enlevé les verbes, les points, etc., le récit et tout, il ne reste plus rien. Simplement, cette idée de la modernité s'imposait que le texte n'était pas là pour rendre compte du réel. Le texte était là que pour rendre compte du texte à travers d'autres textes, etc. Donc c'était l'intertextualité. Et avec des mots d'ordre qui étaient bien précis, la mort du roman, la mort de l'auteur, cette idée que l'auteur n'est pas le seul dépositaire de son texte, puisqu'il y a tout un sens du texte qui lui échappe, et que celui qui débusque ce sens-là, c'est-à-dire le lecteur, devient le vrai auteur du texte. Donc, excite l'auteur pour mettre à la place le lecteur triomphant, Barthes. Barthes, c'est le lecteur par excellence, et c'est lui qui annonce la mort de l'auteur. Donc, fin du référentiel, fin du récit, le roman étant considéré comme un genre bourgeois, on n'en parle plus, sachant qu'en même temps que on avance comme ça au pas de charge dans cette modernité, politiquement, c'est aussi la même chose. C'est-à-dire, du passé faisons table rase, ce sont des années marxistes, on est après 68, on pouvait pas dire trois mots sans mettre révolution derrière. C'était hallucinant, c'était comme un mantra, révolution, révolution. Je ne comprenais strictement rien à tout ça, mais j'ai essayé de me mettre, vous savez, au goût du jour quand même, hein, laborieusement, et je voyais bien que j'étais pas préparé du tout à ça par mon parcours. Et je pense que j'ai d'autant plus été sensible à ces dictates comme ça de la modernité littéraire que je ne voulais pas passer justement pour rétrograde réactionnaire venant de ma campagne catholique comme ça. Et en plus, ça m'intéressait. J'ai cette idée que globalement, on n'est pas là pour refaire ce qui a été fait. Il y a une phrase de Stendhal qui dit le premier, de Nerval qui dit le premier qui a comparé la femme à une rose était un génie, le deuxième était un imbécile. Donc, passer pour un imbécile, c'est quand même pas une ambition. Donc, l'idée, c'est effectivement de faire du nouveau, qui était en plus l'idée fondamentale du siècle. Alors, j'ai embarqué là-dedans, et ce qui fait que l'idée même d'écrire un roman, alors que je voulais devenir écrivain, ne se posait même pas.
Ce qui c'était peut paraître... interdit, d'une certaine manière. Ouais.
Mais, enfin, vous savez, vous n'y pensez pas tellement, c'est comme si on vous proposait de remettre une robe en crinoline. Enfin, vous voyez, c'était aussi dépassé que ça, ringard. En plus, les écrivains, les romanciers de cette époque-là, je ne parle pas de Modiano ou de Lucrezio qui avait un statut à part, mais c'était les romanciers de la modernité, on en a parlé, c'était ceux du nouveau roman, hein, donc qui étaient là dans une déconstruction permanente du récit et de la phrase. Et les deux modèles qui étaient placés vraiment comme figure tutélaire de la littérature, c'était Joyce et Céline. C'est-à-dire ceux qui ont démantelé le récit, qui ont démantelé la phrase, et il n'y avait au fond de salut que dans cette déconstruction-là. Sauf que lorsque vous allez de plus en plus loin dans cette déconstruction, à un moment, la phrase ne dit plus rien. Elle ne parle plus à personne.
Voilà, vous dites, vous avez une jolie formule, vous dites à l'époque, on avait construit des romans hors sol.
Oui, alors c'était évidemment, puisque le référentiel n'était pas autorisé, le référentiel c'est le réel. Hein. Donc, l'idée c'était donc de construire des histoires. Alors derrière il y avait Kafka, avec des personnages qui s'appelaient K, X, Y ou Z, et dans des non-lieux. Hein. On est dans des lieux indéfinis. Parce que, et c'est là que c'est très français, définir le lieu, situer, c'était automatiquement s'engager. C'est-à-dire, la province, on en a parlé, c'était forcément le lieu de la réaction. Donc au fond, il n'y avait qu'un lieu en France pour être moderne, c'était Paris. Voilà.
Et ce que vous expliquez aussi, Jean Rouault, c'est que c'est toute cette question autour du roman et qui ne doit plus rien raconter, qui ne doit surtout pas raconter le réel, c'est spécifique à la France, d'un pays qui n'a pas voulu regarder ce qui s'était passé pendant la guerre, qui avait des choses à cacher quand même.
Alors voilà, donc moi j'ai embarqué dans cette histoire-là, et puis pour quelques temps, quelques années, je me suis dit qu'il n'y avait pas d'autre solution que de revenir à un récit, que le récit, si ça ne raconte pas, si c'est juste de Marquise Beauzeux, vos beaux yeux d'amour mourir me font, tous ces jeux combinatoires, c'est les mots croisés, mais c'est pas la littérature. Et donc, à partir de là, je fais un réapprentissage de l'écriture réaliste. Je me suis appliqué à appeler un chat un chat. Quand j'étais au kiosque, je faisais des exercices à partir des haïkus, parce que je m'étais intéressé à la poésie japonaise, qui, elle, est très visuelle, située. L'idée de que ce monde-là n'est qu'un rideau de perles et que le vrai monde est derrière, comme chez Platon ou comme dans le christianisme, ça n'existe pas, c'est japonais. Et donc tous les haïkus sont comme des diapositives. Et donc je m'appliquais au kiosque à faire très rapidement des haïkus avec les gens qui passaient. Alors ça donnait... il y avait un lecteur de La Croix qui disait ni bonjour ni rien, ni merci, et je notais, un lecteur de La Croix se devrait de dire merci. Il y avait une femme africaine en boubou qui passait devant le kiosque, mais avec des talons aiguilles, et alors évidemment, c'était un peu brinque-ballant, on voyait qu'elle n'avait pas trop l'habitude, et je note, femme en boubou, malhabile sur ses talons. Et j'en ai des centaines comme ça. Mais c'était pour m'obliger, hein, vraiment, à dire le réel. Donc c'est ce qui m'a amené, c'était pendant que je commençais l'écriture des Chants d'honneur. À la suite de quoi, je me suis demandé pourquoi ça m'avait pris tant de temps, parce que quand les Chants d'honneur sont parus, tout le monde m'a fait remarquer que j'étais pas la première jeunesse pour mon premier roman. J'avais 37 ans, j'allais en avoir 38. On peut commencer plus tôt quand même. Moi, j'avais pour dire que Miller avait 42 ans et Céline 38. Voilà, on me pointait ça. Et le fait est, c'est que si j'en étais arrivé aussi tardivement, c'était dû à cette histoire de la mort du roman qui avait repoussé pour moi le moment de me mettre à écrire des romans, puisque c'était pas la modernité. Et donc après, je me suis demandé, mais qu'est-ce que ça voulait dire cette histoire-là? Qu'est-ce que c'est qu'un pays qui s'autorise à décréter qu'on ne peut plus raconter d'histoire? Parce que la mort du roman, c'est ça. Les romans, on prend les romans du 19e ou ceux du 20e, ils racontent les histoires du pays. Donc, ça voulait dire deux choses. Soit que le pays était mort avec le roman. Le pays est mort, donc plus de romans à raconter. Or, le pays est mort d'une certaine manière en juin 40. D'abord, il disparaît de la carte. Et puis, il ne se remet pas d'avoir dégringolé dans la seconde division des nations, hein, alors qu'avant, le pays se pensait toujours comme le phare du monde. Hein, faut voir. C'est Jules Romain qui arrive en 42 à Mexico. C'est Victor Serge qui raconte ça. Il fait une conférence sur en 1942. C'est-à-dire, la France, c'est vraiment plus rien. Et qui fait une conférence sur le grandeur de la France, de la littérature française, donc surréaliste. Oui. Donc il y avait cette espèce de persistance rétinienne qui s'était effondrée. Et les seuls qui ont, d'une certaine manière, acté cette disparition, ce sont les théoriciens de la littérature qui ont décrété la mort du roman. Alors, première version, le pays est mort, donc plus de roman, plus rien à raconter. Deuxième version, le cadavre bouge encore, et il y aurait peut-être des choses à raconter, mais ce qu'il y a à raconter, c'est quand même pas Jojo. Et ce qu'il y a à raconter, c'est la collaboration, c'est la participation du pays à la solution finale. C'est Drancy, c'est Baume la Romande, c'est ce qu'on a vu avec Papon, etc. Et ce qui est étonnant, et là où ma thèse commençait à prendre vraiment de l'intérêt, c'est que à mesure que la France commençait à soulever le couvercle comme ça de ce passé honteux, c'est-à-dire à partir des années 70, ça commence par l'Armodiano avec la place de l'Étoile. Ensuite, il y a la France de Vichy de Paxton, écrivain américain quand même, historien américain. Il y a eu le chagrin et la pitié aussi pour fin des années 60. Et puis les procès qui arrivent, le Touvier, etc. Le dernier Papon. Et puis le film de Lance Mann, Shoah. Et à mesure qu'on commençait à soulever ce couvercle-là de l'histoire honteuse du pays, le roman redevenait un genre fréquentable. C'est-à-dire qu'on voit bien que le retour en grâce du roman comme genre littéraire, c'est la fin des années 70. Et Lindon, Jérôme Lindon, l'éditeur de l'édition de Minuit, à qui je racontais tout ça, me disait que pour lui, pendant 20 ans, il s'était rien passé, c'était entre le nouveau roman et en gros le Méridien Greenwich de Schnauz. Et quand il avait reçu le manuscrit des Schnauz, il s'était dit, ah, voilà, là, il y a quelque chose qui est en train de se passer, il y a un retour au récit, il y a un retour au roman, qui s'est fait par le biais des romans pour Schnauz, mais aussi pour Jean-Patrick Manchette, par le biais de ce qu'on appelait la littérature populaire. Parce que politiquement et idéologiquement, donc les temps sont marxistes, il ne fallait pas se couper des masses. Alors qu'est-ce que disaient les masses? Elles lisaient pas la littérature bourgeoise. Enfin, on avait décrété parce que tout le monde pouvait lire Flaubert. Et en revanche, il y avait les romans de guerre, les romans policiers, les romans fantastiques, science-fiction, etc. Et quand j'étais en fac, on s'est intéressé, on étudiait cette paralittérature au détriment de la littérature dite bourgeoise. Donc du coup, c'est par le biais de cette paralittérature que des gens comme Schnauz ou Jean-Patrick Manchette ont réintégré comme ça le giron de la littérature en se couvrant d'une certaine manière idéologiquement avec une littérature qui était compatible avec l'idéologie du moment.
Ouais, l'idéologie s'invite tout le temps dans la littérature.
Pour tout le temps. Quoi. On voit très très bien, dans toute l'histoire de la littérature, je connais assez bien, en tout cas pour ce qui est de la littérature française, si vous faites une lecture croisée avec ce qui se passe à ce moment-là, hein, que ce soit l'invention du roman réaliste en 1830, au moment où la bourgeoisie prend le pouvoir, c'est-à-dire l'accumulation des biens, hein, c'est ça, on est là, c'est Balzac, c'est Stendhal, le roman au 18e, c'est le conte, c'est pas le roman réaliste, c'est même Diderot, etc., c'est un roman philosophique. C'est la philosophie qui est dominante, il y a le monde qui est en train de changer. Donc on prépare le monde nouveau. Le roman de chevalerie qui arrive juste au moment où la chevalerie commence à perdre pied parce qu'arrive l'arbalète, arrive les arcs, etc. Donc, c'en est fini du corps à corps parce que toute la chevalerie est fondée sur la, ce qu'on appelait la mêlée, c'est-à-dire tous les types qui se précipitent les uns sur les autres et cire à droite, cire à gauche. À partir du moment où il y a quelqu'un qui à 100 mètres peut vous transpercer une armure, du coup, c'est quoi la bravoure? Et donc, ils sont obligés à ce moment-là de sublimer l'espoir chevaleresque par le chant. Voilà. Et ça donne le roman de chevalerie, etc.
Oui, mais vous, Jean Rouault, vous nous racontez ça, c'est passionnant. Pourquoi, à un moment donné, vous vous mettez à publier ce que vous pensez? Je veux dire, vous pourriez rester uniquement romancier et puis garder vos réflexions sur le roman pour vous ou pour les interviews. À un moment donné, vous éprouvez le besoin, parfois à l'intérieur de vos romans, de prendre la plume pour raconter cette histoire-là. Pourquoi vous devenez essayiste à ce moment-là?
Mais parce que justement, j'ai été le témoin de ça, et que toute mon écriture a été marquée par ça. Donc je peux pas, si je fais une autobiographie littéraire comme j'ai commencé avec La vie poétique, je suis obligé de rendre compte de ça. Et de répondre à cette question, pourquoi j'ai mis aussi longtemps avant de devenir romancier? Parce qu'au fond, c'est ça, la vie poétique.
Hein? Oui, c'est le chemin, c'est votre chemin d'écriture, c'est pas une autobiographie gratuite.
Non, c'est pas, on n'apprend pas grand-chose. C'est juste, en revanche, par où moi je suis passé, par quelles affres, pour y aller, mais vraiment sur la pointe des pieds et presque à reculons, pour aller vers le roman. Quoi.
Et vous regrettez aujourd'hui, Jean Rouault, toutes ces années perdues?
Elles ont été fécondes de toute façon. C'est difficile de on ne revient pas en arrière. Et c'est mon chemin. C'est mon chemin. Et alors, en revanche, si je n'en tenais pas compte dans mon travail, alors j'aurais l'impression d'avoir perdu mon temps. Voilà. Mais je vous parlais l'autre jour de Chateaubriand qui se place au centre des moments d'autotombe comme témoin. Voilà. J'ai été le témoin de mon temps. Voilà ce qui s'est passé. Alors, à mon échelle, sachant que mai 68 et la mort du roman, c'est pas la Révolution française, c'est pas la Terreur, c'est pas l'Empire, mais tout de même, j'ai assisté à quelque chose dont personne n'a rendu compte, de 68 peut-être, mais pas de la mort du roman. Or, ça dit plus sur la société que beaucoup d'analyses historiques ou sociologiques. Je trouve que la mort du roman et la traduction parfaite du malaise de la société française.
Mais vous témoignez à d'autres niveaux, Jean Rouault. Par exemple, vous avez publié un petit essai qui s'appelle « Manifestation de notre désintérêt », où là, il est beaucoup moins question de littérature, mais surtout du libéralisme et des marchés financiers. On vous a vu avoir une chronique dans l'Humanité qui est réunie dans un volume à propos de la laïcité et de la religion. Donc, je ne sais pas, vous considérez comme un auteur engagé. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui d'écrire ce type de livre pour un romancier comme vous?
Alors, d'abord, je vous ai raconté comment, lorsque je débarque en fac, les deux sont mêlés, l'idéologie et la littérature. On ne peut pas les démêler. Je suis obligé de prendre en bloc le mouvement politique et le mouvement littéraire. Voilà. Au nom de la modernité. Donc, dès le début, les deux sont mêlés. Quand vous regardez l'histoire de la littérature, tout le monde se mêle de son temps. Lamartine a été député, Chateaubriand a été ministre, il aurait voulu même être plus. Évidemment, les Lumières, comment ils se sont battus au nom des idées. Et puis, il y a cette idée qui, pour moi, est importante, c'est que la littérature est un lieu de connaissance du monde. C'est-à-dire que par la poésie, on peut en apprendre beaucoup sur le monde, autant que par les autres sciences humaines, que ce soit la sociologie, la philosophie, etc. Je vais vous donner un exemple pour le manifestation de notre désintérêt. J'ai écrit ce livre parce que j'ai une fille, et donc c'était il y a 2-3 ans, et elle avait 18-20 ans, et elle était absolument désolée, avec pas seulement elle, mais tous ses amis, tous les jeunes gens de sa génération, parce que on leur prédisait un monde épouvantable, à savoir qu'il n'y aurait plus de poissons, plus de pétrole, plus rien. Enfin, c'est le mur écologique, et en plus dans une société qui fabrique du chômage à l'appel. Enfin, vraiment, on peut comprendre que pour des jeunes de cet âge-là, la perspective était sombre. Et donc je l'ai écrit, mais vraiment pour elle, sachant que ce sont des questions qui m'intéressent. Et je commence sur les intérêts financiers, juste avec un jeu de mots. Pour dire que les intérêts, la notion d'intérêt, évidemment, ça n'intéresse pas tout le monde au même degré. Hein. Il y en a qui sont plus intéressés que d'autres. Donc déjà sur le terme d'intérêt. Ensuite, il y a cette idée des requins de la finance. Et le requin, ça me fait penser au capitaine à Tournesol dans la fin du Secret de la Licorne, je crois, où Tournesol a embarqué clandestinement son laboratoire, son sous-marin, qui a une forme de requin. Hein. Et or, avec ce requin-là, ils vont aller où? Chercher un trésor. Donc le lien entre le requin et le trésor, c'est Tournesol qui le fait. Et sur quoi Haddock, dont on peut penser qu'il n'est pas forcément intéressé par ce genre de choses, écrit sur un mur « Votre appareil ne nous intéresse pas ». Voilà. Donc poétiquement, j'avais le lien entre le requin, le trésor et le désintérêt qu'on peut marquer, d'autant plus que le trésor, il n'est pas au bout du monde, il est à côté. Alors, évidemment, ça donne Moulinsart chez Tintin, mais il y a le... Comment, en utilisant tout ce réseau d'images qui viennent au fil de la plume, comment vous faites avancer la réflexion? Et la réflexion n'avance que comme ça. C'est-à-dire que la poésie, comme mode de connaissance du monde, je lance les images, enfin, elles arrivent, je les récupère, avec ça, je tisse mon motif, et elles m'éclairent. Et ça doit essentiellement à la poésie, quoi, cette habitude de fonctionner avec les images et de les mettre en relation, et de laisser faire justement cette mise en relation des images, comme je vous racontais hier. Et sachant que ça me semble difficile de me désintéresser de la marche du monde, pour cette bonne raison aussi que j'ai été formé aussi politiquement avec cette idée, et que l'on retrouve chez les surréalistes, quand Breton dit « changer la vie de Rimbaud ou changer le monde de Marx, pour nous c'est la même chose », on voit bien que le poétiquement, la poésie a aussi un rôle, a aussi une mission, qu'elle ne doit pas se désintéresser du monde. Or, à la fin du XIXe siècle, on voit la poésie qui se dématérialise, qui semble comme ça s'abstraire comme ça du monde, devenir complètement éthérée. Et la force des surréalistes, ça a été de réancrer la poésie dans la marche du monde. Ils se sont tous engagés avec les fourvoiements que l'on connaît pour Aragon et Loire.
Mais il me semble en même temps, Jean Rouault, que cette histoire de mort du roman, chez vous qui travaillez tout le temps sur les morts, ça doit résonner d'une autre manière quand même.
Alors, c'est ce que j'ai compris en écrivant cette vie poétique, c'est que au début j'ai été freiné par la mort du roman, il y avait quand même ces deux éléments qui étaient la mort et qui étaient le roman. Et qu'au fond, en renversant les deux termes, je pouvais faire le roman de la mort. Ça fait partie des mécanismes inconscients. Mais quand je vous disais que vraiment l'élément déclencheur, ça a été cette image pieuse trouvée dans le missel intitulée « Les champs d'honneur », où était indiqué le nom de ce grand-oncle mort à la guerre, eh bien là, avec cette mort que l'on m'offrait, je pouvais faire un roman. Donc ça a été le fruit d'un renversement. J'ai pris à la lettre les deux termes.
Mais aujourd'hui, chez vous, cette mort du père dont on parle depuis le début de ces rencontres, c'est toujours le centre de votre création?
Non, non, non. Non, non. Il y a une chose qui politiquement me hérisse, c'est la notion d'identité. Or, l'identité, c'est sur une carte, vous avez votre nom et votre prénom, date de naissance, et où vous êtes né, et basta. Donc, qu'est-ce qui nous fonde? Et ce qui nous fonde, c'est notre imaginaire. On a récupéré un imaginaire qui s'est sur l'écran blanc là comme ça des premières années, qui s'est imprimé et avec lequel on va composer toute sa vie. C'est évident que au-dessus on rajoute d'autres éléments, mais ce sont quand même ces éléments fondateurs qui créent cet imaginaire là et qui sont pour moi donc la Loire inférieure, la guerre. Le catholicisme, voilà. Donc, C'est quand même avec ces trois éléments-là que j'ai fait les Chants d'honneur.
Et le fait d'être devenu père vous-même, puisque vous venez de nous parler de votre fille, ça a changé quelque chose à votre rapport à tout ça ?
Ça a changé une chose, c'est que je n'étais plus le centre, et d'un coup, je me souviens très très bien, j'écrivais le Monde à peu près, l'écriture s'est mise à... Alors qu'avant, j'étais dans une écriture flaubertienne, très... C'était pénible, enfin vous voyez, c'était presque du mot à mot, en train de tourner les phrases. D'un coup, il y a une libération. Et... j'avais même inventé, régulièrement je me fais des petits slogans là comme ça pour moi, écrire c'est courir sur l'eau. Soudain ça m'est apparu d'une simplicité biblique. Et le début du Monde à peu près, qui raconte, narrateur, bon c'est pas tout à fait moi, mais enfin en gros, il s'agit de mes souvenirs de jeune homme lorsque je jouais au football, et donc comment j'étais enfermé par la myopie, que je ne voyais absolument pas ce qui se passait sur le terrain, et que donc j'avais tout le temps la tête baissée à regarder mes pieds et le ballon, et que je passais mon temps à dribbler, donc à faire des circonvolutions, tourner, et ce qui est exactement ce que je fais avec les phrases.
Mais c'est comme ça qu'on vous a comparé à un Woody Allen de Loire-Atlantique.
Oui, il y a eu ça, oui, il y a eu des... Vous savez, il y a des éléments qui font que dans le catalogue, on trouve tout de suite les points de comparaison. Vous parliez à propos des Chants d'honneur, que tout de suite on avait parlé de Claude Simon parce que Minuit et la guerre. Là, il y avait le bigleux et pas très déluré.
Une donc, certaine forme d'autodérision aussi, peut-être, qui vous rapprochait de lui. À partir justement du Monde à peu près.
Alors la dérision, c'est quasiment lié à l'autobiographie. Vous pouvez difficilement imaginer un autobiographe qui se mettrait en avant, hein, qui serait tout le temps là en train de vanter ses mérites ou je ne sais quoi. C'est-à-dire c'est impossible à écrire. Et puis c'est pas intéressant. En revanche, il y a tout ce qui a coincé, toutes ces petites choses misérables dont on n'est pas très fier. C'est aussi une manière, évidemment, de catharsis. Et puis, il y a plus de jubilation à se débiner qu'à se glorifier.
Merci, Jean Roux.
C'est moi.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Sylvie Tanet avec Jean Rouault. À Voix Nue, attachée de production Claire Poinsignon, prise de son Étienne Leroy, réalisation Anne-Pascale Desvignes. Cette émission s'écoute en ligne pendant une durée de 1000 jours et se podcast pendant un an sur franceculture.fr.